dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le grand sujet de la démocratisation des actifs privés au sens large et de la dette privée en particulier. Nous en parlons avec Kelly Hébert, qui est directrice générale France de MNG Investments. Bonsoir Kelly.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Oui, j'essaye de circonscrire le sujet à la dette privée parce que la vague de démocratisation dont on parle, elle touche beaucoup d'actifs privés au sens large, private equity, etc. Mais là, le sujet, c'est celui de la dette privée. Spécifiquement, Kelly, comment on définit cette classe d'actifs? De quoi est-ce qu'on parle précisément aujourd'hui quand on évoque la dette privée?
C'est une bonne question et c'est sûrement important de le définir parce que c'est vrai que le private equity a été une classe d'actifs dans l'univers non coté alternatif qui était plus connue et sûrement plus abordable puisque ce sont des histoires d'entrepreneurs avec des entreprises qui font juste le choix de ne pas aller se coter en bourse. Du côté de la dette privée, on parle de quoi? On parle en fait d'emprunts non bancaires. Donc très similaire au private equity, des sociétés qui décident d'émettre, qui sont non cotées et qui décident d'émettre des financements hors système bancaire, ou en tout cas ce sont des sources de financement alternatives.
Ouais. Que représente ce marché aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de la photo, de la dynamique de ce marché de dette privée spécifique, hein? Encore une fois, le développement des actifs privés a été majeur au cours des dernières années. Qu'en est-il spécifiquement de la dette privée?
Alors, la dette privée ne fait que doubler tous les 5 ans si on revient sur les 10 dernières années. Donc, en 2015, la dette privée, ça représente 500 millions.
D'accord, rien quoi.
Milliards, pardon.
Milliards, d'accord, alors 500 milliards, d'accord.
Milliards.
Oui, oui.
En 2021, c'était déjà 1200 milliards.
D'accord.
Et on pense que d'ici 2027, ça aura encore doublé pour atteindre 2300 milliards.
Ça, c'est global autour du monde.
Ouais.
D'accord.
Voilà. Ça correspond, il faut revenir un petit peu à la genèse, cette explosion ou cette croissance, plutôt pour utiliser un terme positif, de la dette privée, il faut revenir à une croissance accélérée depuis en gros 2008. Crise financière globale, avec les banques mais qui se retirent d'un segment juste de financement et de prêts. Et donc, du coup, la nature ayant horreur du vide, des acteurs, les sociétés continuent d'avoir besoin de lignes de crédit de financement et des acteurs vont se proposer pour fournir ces financements et notamment les gérants d'actifs, tout comme nous pouvons l'être chez MNG Investment et d'autres.
Ouais.
Ça, c'est vraiment un phénomène qui a beaucoup accéléré. Et aussi, pour revenir sur le private equity, en fait, on a eu une décélération du nombre d'IPO, d'introductions en bourse.
Bien sûr.
Donc, entre 1980 et 2000, il y a à peu près 6000 introductions en bourse dans le monde. Sur les 20 années suivantes, entre 2001 et 2022, il y a moins de 3000, donc deux fois moins d'IPO, d'introductions en bourse. Et au même moment, vous avez forcément le marché du PE qui, lui, explose pour atteindre plus de 7000 milliards. Donc, tout ça va ensemble.
Ah ouais. Et donc, oui, cette dynamique du private equity ces dernières années, c'est accompagné, enfin, la dette privée a accompagné ces entreprises financées hors marché coté, j'entends, qui avaient aussi besoin parfois d'instruments de créance ou de dette pour leur financement.
Oui, et puis on a eu ces 20 dernières années beaucoup de secteurs qui sont devenus de plus en plus techniques.
Ouais.
Donc je pense que ce soit la biotech, la pharmacie, la santé, l'IT. Et en fait, c'est pour apprécier le risque représenté par le produit ou les services présentés par ces entreprises, il faut avoir des analystes financiers qui sont capables d'apprécier le business model, le brevet, vraiment les caractéristiques techniques qui sont présentées par l'entreprise. Et les banques, depuis 2008, s'étant retirées et ayant retiré les analystes et les expertises, étaient plus capables finalement d'aller apprécier le risque présenté par ces secteurs d'activité très techniques parfois. Et donc on a eu une multitude, nous en tant que gérants d'actifs, nous et d'autres, on a été capables d'investir pour recruter des experts qui sont capables en fait d'aller appréhender les différents business models.
Ouais, il y a eu un mouvement effectivement de transfert entre l'analyse du risque fait par les banques et l'analyse du risque et la capacité à analyser le risque et à investir chez les asset managers comme vous aujourd'hui. Vous êtes dans le top 3 d'ailleurs, je crois, détenteurs de dettes privées en Europe, c'est ça aujourd'hui,
exactement.
Kelly,
ouais, donc sur les actifs privés, on gère quasiment 90 milliards. Sur la dette privée, prenons par exemple le cas des loans, donc des prêts pour seniors, c'est 8000 milliards gérés aujourd'hui et c'est plus de 700 experts
Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire des caractéristiques de ces, de ces actifs, de cette dette privée? En l'occurrence, est-ce que vous travaillez sur des segments particuliers? Est-ce que ça couvre le financement de tout type de secteur aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a quand même, on retrouve peut-être des secteurs en première ligne qui utilisent la dette privée pour s'y financer? En termes de rendement, qu'est-ce que ça donne également? En termes de risque également, par rapport à de la dette cotée, notamment de la dette obligataire traditionnelle, qu'est-ce qu'on peut dire des caractéristiques là, de ce segment?
C'est des très bons points, parce que c'est évidemment très attractif, sinon il n'y aurait pas eu un tel essor et un tel engouement de la part des investisseurs institutionnels et maintenant, disons, les particuliers ou cette démocratisation des actifs. Donc elle vient évidemment parce que les rendements qui sont proposés dans l'univers de la dette privée sont attractifs parce qu'il y a cette prime d'illiquidité. Forcément, vous n'avez pas cette notion de cotation en bourse où vous pouvez à tout moment redonner votre titre, donc vous êtes quelque part, entre guillemets, obligé de le porter jusqu'à l'échéance. Cette prime d'illiquidité, pour vous donner un petit peu un exemple, par exemple, sur les 10 dernières années, la dette privée, c'est 10% de rendement par an.
D'accord.
Le high yield, c'est entre 3 et 4%. Donc là, c'est un effet rétroviseur, mais cette prime d'illiquidité va rester vraie dans le futur, et donc on peut s'attendre à avoir des rendements qui continueront d'être attractifs sur ce segment-là. Après, il faut être vigilant, puisqu'il faut être sélectif. Tous les secteurs d'activité peuvent être représentés au sein de la dette privée, puisqu'en fait, la seule, entre guillemets, caractéristique à respecter, c'est d'être non cotée. Mais encore une fois, on va prêter, et je vais vous donner des exemples concrets, parce qu'en fait, finalement, les investisseurs, parfois, n'ont pas toujours de notion de quelle société on parle. On investit, nous, par exemple, on prête des capitaux à Vela, la marque de shampoing, ou peut-être plus connu, Verisure, le leader de la
bien
sécurité, des alarmes, Flora... le beurre.
Ah, mais c'est du financement direct de l'économie. Hein.
C'est du financement
direct
de l'économie. Là où il faut être vigilant, c'est qu'on est quand même dans une période de l'économie, même si, et vous venez d'en parler, est-ce qu'on est sur un soft landing, no landing? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il faut être vigilant sur les niveaux de défaut qui sont très bas depuis 10 ans. Est-ce qu'ils vont monter? Bon, c'est pas notre opinion. Mais il faut être... vigilant sur où vous êtes positionné dans la structure du capital. Et nous, c'est vrai qu'on va favoriser une approche plutôt défensive. Donc on va aimer les sociétés qui sont plutôt tout en haut, donc dites seniors, pour lesquelles, par exemple, il y a un collatéral en face.
D'accord. Donc on peut quand même avoir des éléments de seniorité, effectivement, en tant que porteur de dette privée. Ça ne nous met pas non plus en dessous de tous les autres créanciers.
Mais non, au contraire. Ouais, même tout en haut, en termes de... pour faire la queue en cas de problème.
Oui, bien sûr.
Vous êtes tout en haut de la structure
c'est le sujet,
du capital. Et ces collatéraux, c'est très intéressant de s'intéresser à ce qu'il y a derrière un collatéral. Il peut y avoir des machines, un immeuble, des brevets.
Ouais,
et ça permet, en cas de défaut, d'avoir un taux de recouvrement qui est bien supérieur. Le high yield, quand une société annonce le défaut, le high yield, le taux de recouvrement, c'est
40%.
30-40%. Là, vous récupérez
plus 70%. Oui, ça peut être 70%. Non, mais d'où le bon sourcing, évidemment. Enfin, c'est toujours la question de la sélectivité du dossier, etc. Comment est-ce qu'on adapte ce marché, alors qui est un marché qui a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de la part d'investisseurs institutionnels, avisés, sophistiqués, capables de comprendre et capables de s'engager aussi sur cette illiquidité, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on adapte ces produits, puisqu'on retrouve ça dans des fonds, à des clients privés particuliers aujourd'hui?
Alors, le vrai sujet pour, je pense, que cette démocratisation arrive, et je pense qu'elle est vraiment nécessaire, parce que si on réfléchit en termes de construction de portefeuille, il y a une vraie diversification à aller chercher en investissant sur une partie du marché qui est déjà non cotée. Vous avez moins de volatilité et des rendements qui sont attractifs. Donc en termes de pure construction de portefeuille, je pense que tous les investisseurs doivent s'intéresser à cette partie non cotée, dite alternative. Sur la dette privée spécifiquement, ce qui va être intéressant, c'est notamment, et là je reviens sur un fait conjoncturel, le fait qu'il n'y ait pas de duration. Et si on a des sujets de remontée des taux, baisse des taux, finalement, on ne sait plus à l'heure actuelle. Ouais. On pensait qu'il y allait avoir une baisse de taux et finalement...
Est-ce qu'il faut être long duration ou court duration? Oui, beaucoup s'y sont pris un peu les pieds dans le tapis.
Et donc du coup, là déjà, vous êtes protégé de ces sujets-là. Pour revenir sur votre question sur comment l'offrir au plus grand nombre, il faut offrir de la liquidité.
D'accord. La clé, c'est ça. C'est traiter la question de la liquidité auprès d'un public qui peut dire, oui, je m'engage dans un tunnel de 5, 8, 10 ans, pas de problème, mais qui peut, à un moment, avoir besoin quand même de retirer de l'argent.
Exactement, parce que on a tous, à un moment, besoin de liquidité, sauf les familles avec les plus gros patrimoines ou les institutionnels. Ouais. Et c'était les raisons pour lesquelles elles pouvaient se permettre d'être coincées, parfois pendant 7, 10 ans. Mais pour tout autre investisseur, il faut pouvoir à un moment donné accéder parce qu'on a besoin de liquidité à ces investissements. Ouais. Et donc nous, on a réfléchi chez MNG Investment comment on pourrait fournir une stratégie qui offre une liquidité mensuelle et jusqu'où on peut aller en termes de rendement pour offrir cette liquidité mensuelle.
J'entends.
Ce qui est un équilibre qu'il faut trouver. Et nous, aujourd'hui, on pense qu'on arrive, et d'ailleurs, on a une stratégie, un LTIF, qui, aujourd'hui, propose un rendement entre 9 et 10% par an, avec une liquidité mensuelle.
Mensuelle, d'accord. Donc, ça, il faut accepter. Peut-être que le rendement est un peu moindre que si on était vraiment dans l'illiquidité totale, mais on a cette liquidité mensuelle. Vous dites que c'est un équilibre, et ça, c'est l'équilibre qui convient à la clientèle que vous adressez aujourd'hui.
Oui, exactement. Et c'est très important parce qu'en effet, dans la dette privée, on n'a peut-être pas assez de temps pour revenir sur tout ce qu'il y a dans l'univers de la dette privée. Mais il y a les prêts dits liquides qui sont les senior loans, par exemple, et il y a ce qu'on appelle le direct lending.
Bien
ou les junior loans, et ça va être moins liquide. Vous allez être moins vous allez être liquide, plus vous allez avoir de rendement. Et donc, nous, pour constituer un portefeuille avec une liquidité mensuelle, on a à peu près 70% d'obligations de prêts qui sont seniors, avec une liquidité quotidienne, donc un très gros marché secondaire.
J'entends.
Et on a 30% de produits, enfin de stratégies de dette moins liquides qui viennent booster un peu le rendement.
LTIF, apprenez, effectivement, c'est l'acronyme européen, enfin le cadre réglementaire qui régit effectivement les fonds d'investissement en actifs privés, c'est ça, Kelly. Hein.
Ouais.
Voilà. Merci beaucoup, Kelly Hébert, d'être venue nous voir pour faire ce point sur le marché de la dette privée qui, comme les autres classes d'actifs privés, s'ouvre aux particuliers ou en tout cas aux clients privés. Kelly Hébert, directrice générale France de MNG Investments.